RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la roue tourne va vite tourner.
L'After, jusqu'à 23h.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jean-Christophe Drouet.
L'After, encore une heure de délicieux plaisir en notre compagnie, je l'espère, avec Samy Traoré, Sébastien Piocel et Jonathan McCardy. Encore une heure à parler de Marco Verratti, à parler du Mercato et puis à faire un quiz évidemment à partir de 22h45. D'ailleurs, sachez que à l'occasion du match préparatoire pour l'International Champions Cup entre Chelsea et l'Inter Milan, toute cette semaine, je vous offre vos places pour assister à cette rencontre, que vous soyez supporter italien, supporter anglais. Allez encourager l'équipe de votre choix à Nice le samedi 28 juillet prochain pour remporter vos places After. Vous pouvez l'envoyer, l'After, donc au 732-16. After au 732-16. Sachez que pour ce quiz à 22h45, il y aura également deux places à gagner pour cette rencontre entre Chelsea et l'Inter. Nous allons parler maintenant de Marco Verratti avec Mathieu Charret de la rédaction RMC Sport qui nous a rejoint. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir messieurs. Bonsoir.
Salut. À tous. Bonsoir. Alors, on a décidé de parler dans l'After ce soir de Marco Verratti. Car nous avons cette information, il va reprendre dans deux jours.
Ouais, absolument, ça y est, l'Italien, il est rétabli de sa blessure, de son opération aux adducteurs qui était intervenue au début du mois de mai. Il ne ressent plus aucune douleur, ça fait même quelques jours en fait, mais le PSG a voulu jouer la sécurité, ne prendre aucun risque en ce début de préparation, ô combien important, on le sait, pour le début de la saison à venir. Marco Verratti, donc, il va bien, il a repris normalement l'entraînement hier avec le groupe, après avoir fait des séances à la carte au camp des loges les jours précédents. Et là, son programme, donc, pour la fin de la semaine, ça va être deux entraînements demain avec le reste du groupe, un en matinée, un en soirée, avant donc le PSG Arsenal de samedi après-midi.
Information de nos envoyés spéciaux à Singapour pour cette tournée en Asie, et notamment Saber Desfarges. C'est vrai qu'il reste sur une saison en demi-teinte, Marco Verratti.
Oui, absolument, une saison en demi-teinte, une saison compliquée qui avait commencé par une affaire qu'il aurait bien aimé éviter, hein, cette affaire de transfert avorté au FC Barcelone de l'été dernier. On se rappelle, on l'avait longtemps annoncé proche du club espagnol, on avait parlé d'une vraie volonté des deux côtés, du côté du joueur comme du côté du club Blaugrana. Il y avait eu plusieurs épisodes marquants dans ce feuilleton. Il y avait eu notamment cette vidéo d'excuse de Marco Verratti où il avait dû s'excuser après des propos de son agent de l'époque, Donato Di Campoli, qui disait que Marco Verratti, son joueur, était un prisonnier de l'émir qatari au Paris Saint-Germain. Et puis il y avait aussi l'épisode de ses vacances à Ibiza où il avait posé avec la une du Mundo Deportivo, une photo qui avait fait pas mal polémique à l'époque. Voilà, le feuilleton avait duré quasiment tout l'été avant que le PSG et que Nasser Al-Khelaifi, le président, ne ferment la porte définitivement à son départ au FC Barcelone. Et cet épisode, eh ben, il a laissé des traces chez l'Italien, déjà parce qu'il a perdu son agent et ami historique Donato Di Campoli, qui a été remplacé l'été dernier par Mino Raiola. Et puis parce qu'il avait donc démarré sa saison dans la peau, en fait, du joueur qui doit reprouver son attachement à son club, au Paris Saint-Germain. Et puis il y avait donc, on en parlait tout à l'heure, cette blessure aux adducteurs qu'il a entraîné un peu toute la saison, qui a nécessité une opération au mois de mai, et qui fait qu'il a raté une partie de la saison. Il n'a joué que 22 matchs de Ligue 1 en 2017-2018. C'est son deuxième total le plus faible, derrière 2015-2016, où il avait souffert déjà d'une pubalgie qu'il avait dû également opéré. Donc voilà, cette saison, Marco Verratti va avoir beaucoup à prouver au Paris Saint-Germain pour sa 7e campagne en Ligue 1.
Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Marco Verratti, présenté comme le futur crack, une future légende du foot, notamment en Italie, où c'est vrai qu'il tarde à prouver avec la sélection.
Pas qu'il tarde, c'est qu'il déçoit.
Et qu'il déçoit, évidemment. Mais c'est vrai qu'en Italie, on lui a aussi donné les clés du jeu. Au Paris Saint-Germain, même s'il y a d'autres stars, évidemment, on sent qu'il a un énorme talent, Marco Verratti. Et évidemment, le débat n'est pas là-dessus. Mais est-ce que c'est sa dernière chance, cette saison, de prouver que c'est un top player, Marco Verratti? Qu'en pensez-vous?
Dernière chance, c'est quand même... Bon, il est quand même un peu jeune. Je pense que s'il se plante cette saison, il en aura d'autres. Mais le truc, c'est que je pense que Tourelle...
Ouais, au Paris Saint-Germain, ouais, il en aura peut-être pas d'autres. Et ça va aussi conditionner son futur club.
Ce que je pense, c'est que Tourelle peut lui faire beaucoup de bien. On sait que c'est un entraîneur qui est un peu intrusif dans la vie privée de ses joueurs. On sait que les problèmes de Verratti, c'est principalement que parfois, en termes de poids, c'est pas ça. Qu'en termes d'hygiène de vie, on a des échos comme quoi c'est pas ça non plus.
Des
on
échos.
Sait qu'avec Tourelle... C'est prouvé. Ok, on sait que c'est pas juste des échos. On sait que Tourelle, c'est le genre de mec à aller faire les placards de ses joueurs pour leur virer le ketchup et pour leur interdire de manger certaines choses. On sait que Tourelle lui a demandé de revenir à l'entraînement avec un certain poids, de perdre du poids. Donc voilà, moi je pense que là, il va avoir le cadre de discipline qui va être parfait pour bien l'encadrer, pour qu'il soit un peu plus concentré sur son football, parce qu'on est d'accord que c'est un joueur qui est extraordinaire. Maintenant, après, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas forcément de son fait. Je pense qu'il y a on a du mal encore, et je pense que ses entraîneurs aussi, on n'a jamais vraiment su comment vraiment le faire jouer. Alors on sait que c'est un milieu de terrain, mais je pense qu'il faut qu'un entraîneur arrive enfin à le fixer à un poste et à lui demander quelque chose de bien précis.
Paris Saint-Germain, il était quand même fixé à un poste dans ce 4-3-3.
Il n'est pas extraordinaire. Je veux dire, ça reste un très bon joueur. Je reconnais que c'est. Mais après, on parle souvent de d'euphorie classe. Mais les grands joueurs. C'est pas que le terrain, c'est pas ce qu'ils vont montrer le week-end, ou c'est tout ce qui est préparation invisible. C'est là on parlait de pubalgie deux fois. Ouais, en général, pour les sportifs de haut niveau, on sait que bon, souvent pubalgie, c'est parce que on n'a pas une hygiène de vie.
Pas spécialement une hygiène de vie, plutôt une alimentation.
Ouais, une alimentation, mais
c'est
bon,
pas pareil.
Bah, oui, c'est une partie de l'hygiène de vie.
L'hygiène de vie, ça enveloppe tellement de choses dans l'hygiène de vie, la préparation invisible, que on peut pas spécialement dire d'une personne qui a eu deux fois les adducteurs ou problèmes d'adducteurs que spécialement il a une mauvaise hygiène de vie. C'est plus, je pense, dans son alimentation. Ça se trouve, il dort parfaitement, il fait des choses parfaitement,
mais il mange mal. Champion, est-ce que c'est un grand champion?
Non, mais il fait pas partie des grands. Non, mais milieu de terrain ou des futurs. Bah, c'est un futur.
À un moment, un moment, on disait que c'était le remplaçant de Xavi au Barça. Tu vois.
Ouais, mais.
On te situait le truc.
À un moment, mais.
Oui, mais à 25 ans, il y a un moment, il peut pas être l'éternel espoir toute sa vie, hein.
On l'a comparé un peu à Pirlo, alors que c'était une connerie monumentale. Ouais.
C'est pas mais qui l'a comparé? C'est nous, les journalistes, la plupart du temps.
Et ensuite, par rapport à ça, il faut aussi regarder, tout ce qui est statistique, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on demande aussi d'avoir des statistiques pour des milieux de terrain.
Un minimum, c'est vrai.
Il est quasiment jamais décisif. Alors ça, il est beau avoir joué. C'est vrai que quand l'équipe a le ballon, c'est le cas de Paris en championnat.
Même quand ils ont pas le ballon, c'est quelqu'un qui charbonne quand même, qui va récupérer des ballons.
C'est vraiment l'organisation qui lui sied le mieux aussi. Ça me le demande vraiment.
Tu penses à deux?
Je pense qu'à deux, en étant plus axial, ça serait peut-être plus son poste. C'est pour ça que je dis aussi que voilà, il y a des problèmes de son côté-là, mais je pense qu'aussi on a encore du mal à trouver vraiment comment.
Moi, je le vois
situer
dans un autre poste, moi, carrément. Je le vois dans un milieu à trois, mais au lieu d'avoir une pointe basse, elle a la pointe haute. Parce qu'il sera un peu plus libre devant, tout ce qui est offensif.
Il n'a pas besoin de rapidité,
un joueur comme lui. Sur une fin de corps, il va t'emmener à droite, à gauche, il va te mettre un ballon dans le trou, ça suffit.
Je veux bien l'accorder, mais il n'est pas assez décisif.
Justement, c'est ce qu'on va lui demander.
On est en droit
de lui demander de mettre plus de buts et plus de passes décisives pour un joueur de son talent.
Moi, je le verrais plus dans un milieu à deux, tu vois.
Mathieu nous l'a rappelé tout à l'heure, il nous parlait d'un joueur que le Paris Saint-Germain a absolument voulu conserver. Il était hors de question de le voir quitter le FC Barcelone. On peut se poser la question aussi.
Monsieur, c'est Barcelone qui va le chercher.
Maintenant, il est toujours aussi intransférable. En tout cas, à en croire Sky Italia, le Paris Saint-Germain aurait proposé 2 années de contrat en plus pour Marco Verratti, ce qui le lierait au PSG jusqu'en 2023, et une revalorisation salariale qui porterait son salaire à 11 millions d'euros par an, ce qui en ferait le joueur italien le mieux payé d'Europe. Ma question, est-ce que selon vous, c'est mérité? Est-ce que, même si ça ne veut rien dire, évidemment, au niveau des salaires, parce que tout dépend, évidemment, de l'enveloppe du club dans lequel tu es, mais est-ce que de devenir et d'être le joueur italien le mieux payé d'Europe, c'est pas anecdotique non plus, donc est-ce qu'il le mérite? Et est-ce que vous avez la sensation que, là, maintenant, cette saison, il doit vraiment prouver quelque chose au PSG, Marco Verratti?
Dans l'absolu, il le mérite pas du tout. Après, je suis d'accord avec toi, Samy, ça dépend du club dans lequel t'es, ça dépend du contexte, et ça dépend aussi de ce que le club peut prévoir sur toi, et force est de constater qu'il est jeune et qu'il a du potentiel.
Est-ce que le Paris Saint-Germain a raison de s'accrocher à Marco Verratti?
Mais c'est l'éternel problème du PSG, on l'a vu, en fait, t'as 3, 4, 5 joueurs qui, alors je dis pas qu'ils font la loi, mais ils sont vachement aimés, j'ai l'impression, et du coup, on leur passe tout. Et bon, c'est un peu le président qui veut ça aussi, hein. Il est
paternaliste.
Voilà, il est couve. Alors peut-être qu'il a besoin, lui, peut-être finalement de partir.
On le dit depuis longtemps.
Et de se retrouver. Ça peut être l'entraîneur aussi qui le change.
Non, je pense qu'il parlait de Marco Verratti. Ah, okay. Du calme, Jonathan.
Non,
sur
pas
la
de
salle,
Nasser.
Non,
moi, je pense que le point du PSG, c'est Nasser.
Que Verratti parle dans un grand club, parce que ça m'étonne pas que les clubs comme le Barça le convoitent, surtout par rapport à son style de jeu. Et à mon avis, là, il devrait se remettre en question si vraiment il veut passer un palier. Parce qu'à Paris, si ça continue comme ça.
C'est pour ça la question est la bienvenue.
Il va toujours l'augmenter.
C'est pour ça la question. La question est, est-ce que c'est sa dernière chance?
Oui,
je pense que à Paris, oui. Au PSG, je sais pas si c'est sa dernière chance, comme Joe l'a dit.
Moi, je parle du Paris Saint-Germain, évidemment. Oui, est-ce que c'est un vrai tournant de carrière?
Oui, parce que pour moi, aujourd'hui, peut-être pas sa dernière chance au Paris Saint-Germain aussi, mais c'est un vrai tournant de carrière.
Putain, il y a un nouvel entraîneur, il va avoir tout le contexte adéquat pour.
Il a fait la préparation du mieux possible. Il a pas eu de prépa, il a pas eu de post-coupe du monde, il a rien du tout.
On l'attend au tournant, et puis surtout, il est important là.
Quand on parle de son statut, de son salaire actuel ou de son futur salaire, alors pour moi, oui, il est surcoté. Pour moi, il est surcoté. Je suis désolé.
Mais la question qu'on pourrait poser,
c'est qui l'italien qui prend le plus d'argent.
La question qu'on pourrait poser à nos éditeurs, c'est entre Verratti et Rabiot, qui gardez-vous?
Attends, tu veux qu'on pose cette question?
Ouais, bah
non, parce que je la trouve très bien, mais c'est pas moi qui ai pensé, donc on va pas la poser. Thomas est au 32-16. Bonsoir Thomas.
Salut JC, salut les gars, salut à tous.
Salut Thomas.
Salut. Alors, avant de te poser cette question, mais tu la poseras toi-même d'ailleurs, Jonathan, parce que moi, ça, elle m'écœure.
Mais elle mérite d'être posée.
Oui, ça va toi aussi Thomas. tu voulais nous dire quoi? Est-ce que pour toi aussi, tu penses qu'il a un tournant de sa carrière là, Marco Verratti?
Ouais, je pense qu'il est attendu. Il est attendu par tout le monde, par le club, par les supporters. Par rapport à ses performances, c'est ce qu'il a montré récemment avec le PSG. Il est en deçà de ce qu'il a pu montrer justement en arrivant au club pour sa première année. On a tous vu que c'était un joueur pétri de talent.
À part un peu.
Ouais, à part. Alors après, moi, je vous entendais. C'est toujours le même débat avec Verratti. Ouais, mais ses stats, ses chiffres, etc. Pour moi, il y a des joueurs comme ça. C'est pas leur force, c'est pas d'avoir des grosses stats. Pour moi, le Barça, ils étaient prêts à mettre 100 millions d'euros. Ils voulaient pas mettre 100 millions parce que Verratti claquait 15 buts à l'année. Ils voulaient parce que c'est un mec, voilà, comme tu le dis, Jonathan, qui est à part, qui peut t'amener, une force supplémentaire
dans le collectif. Ouais.
Dans le collectif. Voilà. Après, il est clairement un tournant de sa carrière dans le sens où il a quand même raté l'Euro 2016 avec sa sélection. Il n'a pas été à la Coupe du Monde 2018.
En étant catastrophique avec sa sélection aussi.
Il
a l'image de sa sélection.
Ah mais lui, plus que les autres, il a vraiment
été... Vous voulez
on laisse terminer Thomas.
Mais après je pense qu'il a une réelle motivation cette année. Il est revenu très très affûté. Je sais pas si vous avez vu ces photos d'avant prépa où il a dû perdre je sais pas, peut-être 5 kilos.
C'est l'effet Tourelle. Tu sais, il lui a demandé de perdre ce poids-là.
Et j'ai lu aussi par des très bonnes sources que Tourelle n'hésitait pas à être encore plus exigeant qu'il ne l'est avec lui, n'hésitant pas même à le replacer au millimètre près sur le terrain. Je pense qu'il a compris Tourelle le potentiel qu'il avait entre les mains avec ce joueur, et il veut en faire une bombe. Et si Verratti va dans ce sens-là, je pense que voilà, il sera attendu au tournant et il pourra répondre aux attentes que tout le monde a pour envers ce joueur, quoi. Mais bon, voilà, c'est après moi j'ai regardé. Je suis un fan du PSG. J'ai regardé tous les matchs l'année dernière. Il a pas fait une mauvaise saison. Ce qu'il met dedans, c'est son carton rouge contre Madrid. Mais en soi, il fait pas une mauvaise saison l'année dernière.
Non, mais il est jamais mauvais, Thomas, qu'on soit d'accord. Il est jamais mauvais.
Il fait pas une mauvaise saison, mais il fait pas une grande saison.
Exactement.
Non, voilà, c'est ça. Mauvais. Il n'est pas mauvais, mais on a toujours la même question.
Un goût d'inachevé.
On a toujours la même question. Est-ce que c'est l'année, est-ce que c'est la dernière chance pour Verratti? Est-ce que ceci, est-ce que cela? En fait, il y a toujours des débats autour de ce joueur. Mais clairement, il va falloir que, de toute façon, il fasse parler, je sais pas, les chiffres, les performances, afin de gagner quelque chose avec Paris.
En Ligue des Champions. On l'attend en Ligue des Champions.
On l'attend que là.
Thomas, je crois que Jonathan a une question pour toi.
Pose-la toi, j'y sais.
Non, t'as déposé la question à la SACEM, je peux pas y toucher.
Ok. Toi, tu garderais qui entre Rabiot et Verratti si tu devais choisir?
Si je devais choisir, je garderais quand même Verratti.
Ok.
J'adore les joueurs formés au club, j'adore Rabiot, j'adore son jeu, lui aussi c'est un joueur atypique. Mais je sais pas s'il a l'air aussi motivé à l'idée de prolonger avec Paris, il a toujours ses petites caprices, etc.
Et les gars, vous imaginez là, ils augmentent Verratti à 11 millions, c'est ça?
13.
Alors,
11 millions.
Imaginez ce que Rabiot va demander. Parce qu'on sait que son salaire soit aligné sur celui de Verratti.
Rabiot, il demande 600 000 par mois. Après, est-ce qu'il les aura? C'est la question.
Il faut reconnaître qu'Adrien Rabiot, je ne vais pas dire évidemment dans cette émission, n'est pas bien payé, mais dans le vestiaire parisien, c'est très loin celui qui n'a pas un gros salaire. Il est, je crois, au même stade quasiment que Prenel Kimpembe. On peut comprendre qu'Adrien Rabiot, qui a un peu plus prouvé, qu'il a envie d'avoir un peu plus d'argent, on peut pas lui reprocher à Adrien Rabiot, sachant que Marco Verratti a souvent fait des pieds et des mains et a souvent vu son salaire augmenter. Et c'est vrai qu'il était...
Il y a eu trois augmentations, je crois.
Marco Verratti, ouais. Ah, beaucoup plus. Il est venu de Pescara, il avait un salaire évidemment. Oh, je crois qu'il en a eu 4 ou 5.
Tous les ans.
Il en a eu beaucoup plus que 3. Merci beaucoup Thomas. Exactement, j'en ai 3 toutes les décennies. Thomas, je sais que tu aimes bien les questions de Jonathan, mais est-ce que tu préfères mes cadeaux?
Je préfère les cadeaux. Traître. Même si les questions sont bonnes.
On t'achète facilement, Thomas.
Ouais, c'est normal. Non, je savais bien que j'allais récupérer l'affaire. Thomas, je t'offre un livre sur les champions du monde de l'équipe de France, évidemment. Et les champions du monde français, la fabuleuse histoire du deuxième sacre mondial. T'es content?
Merci JC, et puis merci RMC alors.
Bah écoute, je t'en prie, ne quitte pas, on te reprend le standard et puis on te fera un joli colis pour ce bouquin sur les champions du monde. Merci beaucoup Thomas.
Ciao.
Polo nous appelle au 32-16. Salut Polo.
Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Salut.
Je crois que tu es quasiment du même avis que Sébastien Piocel, c'est-à-dire qu'on en fait un peu trop à chaque fois sur Marco Verratti.
Ouais. Alors c'est un top player, super joueur, étincelant, tout ce qu'on veut. Et là je pense que c'est sa dernière carte. Là, il repart tout beau, tout neuf, il n'a pas joué l'Euro, belle préparation. Et là, voilà, c'est son année. Et puis voilà, je pense qu'il faut arrêter avec son transfert raté, son hygiène de vie qui est plus que limite. Là, voilà, je pense que c'est sa dernière carte. Là.
Ok, sa dernière carte. Toi, tu es un supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine. Est-ce que tu es content d'avoir Marco Verratti, mais est-ce que, comme nous, tu attends souvent plus?
Bien sûr. Pourtant, c'est un super joueur, hein. Il est étincelant, etc. Mais il manque le petit truc, quoi. Le petit truc dans les gros matchs. Quand on voit son carton rouge contre le Real, c'est évitable. Faut qu'il arrête de discuter à tout va, les décisions. Voilà.
Il se fait un peu dessus dans les matchs à pression.
Oh là, il se fait un peu dessus.
Ah bah.
Mais non, ça veut dire quoi, se faire un peu dessus?
Je te demande de regarder les matchs à pression du PSG, tu verras qu'il est largement en dessous de son niveau.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se fait dessus?
Je pense qu'il est mauvais. Je pense qu'il supporte. Et pour l'instant, il a pas montré qu'il supporte.
Tu peux pas dire ça. Il chie dessus lors des grands matchs. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent.
Ah bah,
pas du tout. Je l'ai vu faire des bons matchs.
Les faits prouvent.
J'ai vu faire des bons matchs en Ligue des Champions. Je suis désolé. Ah non, je suis pas d'accord.
Monsieur le Parisien, Samitra et monsieur le Marseillais Jonathan Macardy, je vous demande de vous arrêter tout de suite. Sébastien Piocel, pas facile cette émission pour un Nantais, quoique Bastia aussi, on peut le dire.
Ouais, hein. C'est pareil, c'est du sud, hein, plutôt. Les Nîmes, les Bastia, il connaît bien.
Arles-Avignon, t'as oublié.
Oui, aussi.
Polo, tu voulais encore nous dire quelque chose ou pas? J'ai rétabli l'ordre sur le plateau.
Je suis d'accord avec Samy, moi. J'adore Samy, donc je partage avec Samy. C'est difficile de discuter avec un supporter marseillais, donc forcément.
Justement,
le transfert à Marseille, il l'a pas direct.
Il avait une très bonne question, Jonathan. Est-ce que tu préfères garder Marco Verratti ou Adrien Rabiot?
Verratti. Ouais, il a quelque chose en plus. Hein.
Ok, quand même Marco Verratti. Merci beaucoup.
Mais j'espère qu'il va changer d'hygiène de vie. Très franchement.
Mais vous êtes tous focalisés sur son hygiène de vie. Mais arrêtez de croire que c'est vrai.
Mais parce que c'est vrai.
Non, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi?
T'habites pas à Paris. Je peux pas savoir.
Tu peux pas savoir, t'es sûr? C'est ce que toi tu penses.
Mais je rigole.
Non, je peux pas vous laisser dire que Verratti a spécial est mauvais parce qu'il a une mauvaise hygiène de vie. C'est pas ça.
Ah non, c'est pas ça.
On n'a pas dit que il était mauvais à cause de ça. On a dit que ça faisait partie des facteurs qui pouvaient aussi l'expliquer.
Il y a des joueurs qui sortaient tout le temps et qui étaient bourrés tout le temps et qui étaient bons.
Oui, comme Diawara.
Non, j'ai pas de nom à citer.
Ronaldinho.
Non, moi j'étais bourré à la Vendée.
Souleymane Diawara, il le reconnaissait lui-même, il disait si je sors pas, je suis mauvais.
Et il a été bon toute sa carrière ou pas?
Il a été bon à partir du moment où il a recommencé à sortir.
Mais est-ce qu'il était bon toute sa carrière, logiquement? Ouais, il a été bon quand même, il a fait une belle carrière.
Donc c'est un faux débat pour toi.
Très bien.
Merci beaucoup, Polo, d'avoir réagi au 32-16. Le mot de la fin, peut-être pour toi.
Il a deux blessures depuis Belgique, il a raison, Seb, tu vois. Il a un moment, l'hygiène de vie joue aussi là-dessus.
L'hygiène de vie joue forcément sur un sport.
Non, mais pour un sport, il est pas régulier.
Dans
des grands matchs, il a déjà été bon, heureusement d'ailleurs.
Mais j'aimerais
qu'il n'est pas régulier.
Je peux pas vous laisser dire qu'il n'est pas bon par rapport à son hygiène de vie.
Ce qu'il représente à Paris
et le salaire qu'il prend.
Voilà, et
on parle pas de salaire. Pourquoi?
Je sais que tu l'aimes bien, mais vraiment,
on parle de ce qu'il représente sur le terrain. Je suis d'accord.
Par rapport à son salaire, par rapport à ses revendications, par rapport au bordel qu'il a mis 2-3 étés d'affilée, par rapport aux prétentions qu'il a, je suis désolé, il est pas au niveau. Et après, moi, je peux pas te laisser dire ça. Dans les matchs qui ont compté, les matchs qui ont marqué l'histoire récente du Paris Saint-Germain, l'élimination à Barcelone, l'élimination à Madrid, il est passé à travers à chaque fois.
Est-ce qu'il est déjà premièrement?
Mais non, il est pas seul. Mais t'as, quand t'as un joueur que tu payes comme un cadre de ton équipe, sur lequel tu mets autant d'espoir, il doit porter l'équipe. Il est passé à travers, il faut le dire. Après, est-ce que c'est rédhibitoire? Je ne pense pas. Est-ce qu'on l'enterre? Je ne pense pas non plus. Mais pour l'instant, on constate juste, pour l'instant, il a pas donné le rendement qu'on est en droit d'attendre d'un joueur de son standing.
Le rendement qu'on a le droit d'attendre de son standing, ça veut dire que son standing, pour vous et pour nous, il fait partie des meilleurs terrains au monde entier. On est d'accord, oui ou non?
Mais normalement,
c'est le standing qu'on lui prête.
Il
oui
a les mais il a donc, les revendications.
Donc forcément, on sait qu'il a ses capacités. Comme la question de la
sur laquelle on se pose.
On nous le vend.
Est-ce que c'est sa dernière saison? Oui, on est en train de tous débattre sur le même sujet et on est tous d'accord pour dire, à mon avis, c'est sa dernière saison. Mais il a des capacités qui sont au-dessus, bien au-dessus de la norme. Maintenant, c'est sa dernière saison. À lui de prouver que vraiment c'est de la classe mondiale.
T'as plein de joueurs qui ont eu des capacités toute leur carrière énormes.
Dans le championnat de France,
jamais arrivé.
Dans le championnat de France, plus haut, d'un milieu de terrain de cette classe. Est-ce qu'il fait au Paris Saint-Germain en championnat, en Ligue des Champions, plus de difficultés, parce que le Paris Saint-Germain a quand même toujours des difficultés. Mais c'est l'équipe qui a du mal à passer ses quarts de finale.
Je veux pas m'entendre.
C'est pas sûr.
Ce que je te dis, c'est que quand il a,
je crois qu'on vous entend très bien. Tout le monde a compris ce que tu voulais dire.
Quand t'as ce comportement et ses revendications, t'as pas le droit de passer au travers.
Ah, donc il y en a beaucoup qui ont eu ces revendications et qui sont passés au travers. Des plus grands joueurs que lui.
Mais pas chaque saison, pas chaque intersaison.
On est d'accord qu'il a les capacités pour
devenir. C'est sa dernière saison qui est un peu plus compliquée.
Samy,
on est d'accord. Sujet aux blessures.
On est d'accord qu'il a les capacités pour devenir l'un des meilleurs milieux du terrain au monde. Mais aujourd'hui, il fait pas tout. Ou il montre pas tout ce.
Ah voilà, il montre pas tout peut-être.
Voilà. Ok, et ben voilà, vous êtes tous d'accord, c'est parfait. Enfin, je crois, j'espère. Merci beaucoup, Polo, d'avoir composé le 32-16. À bientôt sur RMC. On a fait le tour sur Marco Verratti, c'est bon.
Maintenant, on va voir.
On a fait le débat et maintenant on va juger Marco Verratti qui fait donc son retour à Singapour pour la rencontre face à Arsenal samedi. Merci beaucoup, Mathieu Charret de la rédaction RMC Sport, pour toutes tes précieuses billes sur le retour de Marco Verratti. Sachez que dans une vingtaine de minutes, il y aura le coup avec deux places à gagner pour la rencontre amicale samedi prochain, dans deux jours donc, entre l'Inter et Chelsea. Deux places à gagner, c'est dans quelques instants sur l'After. N'oubliez pas de composer le 32-16 pour jouer avec nous dans quelques instants toutes les infos transfert du jour. A tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
22h26, vous écoutez, vous regardez aussi l'After sur BFM Sport. Il y a eu une pub, une interruption de de quelques secondes. Eh bien, sachez qu'on était toujours en train de parler de Marco Verratti avec Samy Traoré, avec Jonathan McCardy qui ne lâche pas le morceau, et Sébastien Piocel, plus en retrait sur ce débat parce qu'il était en train d'observer cette joute verbale entre nos amis marseillais et parisiens.
En tout cas, on est bien d'accord sur une chose, c'est que même peu importe Marseille ou pas, c'est qu'on veut tous le voir faire une grande saison, parce que quand il est à son niveau, c'est un joueur, c'est un régal pour les yeux, quoi.
On clôt le débat ou vous voulez encore
on fera une après l'émission?
On a le temps, oui.
C'est vrai?
On en reparlera après.
On a le temps d'en parler de Marco.
Ok. On en reparlera évidemment.
Il va faire une belle saison, donc on va parler de lui toute la saison.
De Marco Verratti, évidemment, tu as raison d'être optimiste. Samy Traoré, les informations transfert du jour maintenant. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, évidemment. Vous allez commenter ces informations. Tout d'abord, pour vous dire que Golovin est attendu demain à Monaco. L'information a été confirmée par le quotidien sportif russe Sport Express. Le titre précise que la promesse russe est attendue jeudi en principauté pour y passer sa visite médicale. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 2 millions d'euros lui tend les bras à l'AS Monaco. L'ASM qui était en concurrence avec Chelsea dans ce dossier. Les dirigeants monégasques qui devraient payer une indemnité de transfert au CSKA Moscou d'environ 30 millions d'euros. Toujours convaincu? Toujours content?
Oui.
Super joueur.
Ouais. Pas changé d'avis depuis hier.
Pour mieux. Pour Monaco et tant mieux pour le championnat français.
Ça ouvre la deuxième partie du mercato monégasque. Donc c'est
toi, le milieu de terrain, Sébastien Golovin, tu l'as vu jouer durant la Coupe du Monde. On parle évidemment d'un joueur jeune qui pourrait tenir ses promesses. Est-ce que tu as senti déjà dans son jeu de la maturité? Quelqu'un qui n'est pas juste une pépite?
Oui, et moi, c'est sûr qu'il est, il peut encore progresser, heureusement d'ailleurs, mais il va être avec l'entraîneur idéal pour progresser. Là, c'est vrai que Monaco a eu deux grosses pertes au milieu de terrain, donc il fallait qu'il recompose un petit peu cet endroit du terrain. Et sincèrement, après, je pense qu'ils se sont pas trompés sur le joueur. Ça peut paraître un peu cher, mais il y avait de la concurrence. Et au vu des prix qui s'envolent, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent, même sur ce type de joueur-là, à faire une belle culbute derrière d'ici.
Exactement. Et puis, Monaco a quand même devancé Chelsea, je le disais, dans ce dossier. Ça veut quand même dire quelque chose.
Bataille de propriétaires russes.
Exactement. Un
petit arrangement.
Abramovic.
Non, après, il aura peut-être plus de temps. Lui aussi, il sait qu'il aura plus de temps de jeu à Monaco et que pour s'épanouir, c'est mieux qu'à Chelsea.
Hein. Ça montre l'attractivité quand même de Monaco.
Bah, exactement. Puis, je pense que surtout à Chelsea, c'est pas un joueur vraiment dans le style Sarri, tu vois. Genre, c'est plus un joueur de percussion qui aime bien avoir la balle. J'aurais pas vu vraiment où Sarri l'aurait fait jouer.
Bon, en tout cas, on attendra la confirmation demain, car il est attendu pour passer sa visite médicale. Toujours en France, vous le savez, le défenseur rennais Joris Gnagnon a signé un contrat avec le FC Séville. L'indemnité de transfert est évaluée à 15 millions d'euros et aujourd'hui, nous avons appris que le stade rennais tenait déjà le remplaçant de Joris Gnagnon, pardonnez-moi. Il s'agit de Damien Da Silva, qui était libre depuis la fin de son contrat à Caen, le défenseur central qui a paraphé un contrat de 2 ans. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même profil, mais en tout cas d'un point de vue financier, c'est plutôt une belle opération réalisée par Rennes, vendre Gnagnon 15 millions d'euros et récupérer un joueur en fin de contrat.
C'est pas beaucoup, je trouve. 15 millions.
Ouais, moi aussi. Hein.
Bah, j'espère qu'ils ont. J'espère qu'ils ont mis dans une clause
à la revente
pourcentage, ouais, parce que. Au vu des tarifs qui s'envolent là, c'était une belle promesse. Après sur Da Silva qui arrive, comme ils ont Gelin, dans l'axe derrière, c'était peut-être bien d'associer un garçon avec pas mal d'expérience comme Da Silva.
Il est bon en plus,
voilà,
Da Silva.
Et qui connaît vraiment bien la Ligue 1. Bon, en tout cas, et puis il arrive libre, donc
toujours 3-4 buts de la tête en plus.
D'avoir un bon état d'esprit, donc.
Jérôme Thomas là, c'est la sortie du champagne là.
Oui, Jérôme Thomas, le producteur, l'un des producteurs de cette émission, l'After, producteur historique évidemment, supporter du Stade Rennais, ami du Stade Rennais, c'est vrai qu'il est
icône du Stade Rennais.
Gnagnon qui a fait une grosse saison.
Ah oui. Hein.
Bon, bah, on va passer à autre chose parce que j'ai pas mal de transferts à vous donner, en tout cas de rumeurs, avec celles provenant du Barça et d'El Mundo Deportivo, quotidien catalan. On a parlé déjà longuement d'Adrien Rabiot qui était pisté par le FC Barcelone. Sachez que le Barça suit également de près la situation de Steven Nzonzi. Ça pourrait être le plan B à Adrien Rabiot. On rappelle que le champion du monde du FC Séville dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros.
Pas le même profil. Pas le même profil, Rabiot.
Ouais. Non. Pas le même profil du tout. C'est curieux. En fait, c'est aussi curieux que de passer de Willian à Malcolm, en fait. On se demande, en fait, quelle est vraiment la logique sportive, la cohérence sportive. C'est pas les mêmes profils.
Ok, hier tu nous en parlais du recrutement du FC Barcelone. Alors pour l'instant c'est évidemment une piste selon El Mundo Deportivo, mais voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce recrutement. On parlait du Stade Rennais il y a quelques instants. Il y a Pierre qui vient de composer le 32-16. Bonsoir Pierre.
Salut.
Salut.
Tu voulais réagir au transfert de Gnagnon au FC Séville et à la venue de Damien Da Silva.
Alors déjà parler de la tristesse de voir partir un jeune du centre, Gnagnon. On avait une charnière avec Gélin qui était très complémentaire et qui venait du centre, donc c'était un peu une fierté. Un mec qui était proche des supporters. Mais bon, après on a écouté Mensah, le gars voulait partir et apparemment Damien Da Silva c'est quand même une valeur sûre du championnat.
Mais t'es d'accord que 15 millions c'est quand même...
C'est peu.
Après je sais pas si c'est vraiment 15 millions, c'est les médias espagnols...
Bon, ça doit tourner autour, de toute façon, ça doit pas être beaucoup plus.
Avec des plus-values après, on verra bien. Mais... Après, s'il y avait un accord entre le président et le joueur, c'est difficile à revenir dessus.
Non, après, je pense qu'il avait fait son temps aussi à Rennes. Après, Séville, quand même, ça reste un grand
ordre. Il se plante pas, regarde Clément Langlais quand ils vont le chercher.
Ouais, en général, Séville, quand prennent des joueurs, quel qu'ils soient, se trompent rarement. Après, je pense que ça peut être un bon tremplin pour lui pour aller chercher un club un peu plus haut encore.
C'est déjà une belle progression de carrière quand même.
Ah, il est jeune, hein,
et puis assez rapidement finalement.
Oui, il finit au Real avec Varane.
Pourquoi pas?
Bah, il a le potentiel en tout cas pour aller haut.
C'est un très bon joueur, hein.
Écoute, en plus, surtout sa saison dernière, elle est intéressante parce que quand il commence, il est pas forcément dans les plans de Gourcuff. Ouais. Gourcuff le fait pas vraiment jouer. Il est dans le dur, hein. C'est un jeune joueur. Il a très bien joué, géré cette période et il s'est réimposé tout de suite après. Donc, ça prouve qu'il a quand même du caractère.
Il avait pas mal de surpoids, ouais, c'est Lamouchi qui lui a quand même remis à la sèche, pas mal remis en question à son retour.
Et Pierre, est-ce que tu es content pour l'instant quand même du mercato rennais?
Alors après on va attendre un peu, mais on s'est quand même renforcé. Déjà on a s'est acheté un banc déjà, on n'avait pas l'année dernière. Del Castillo, Sibathieu, Guitane qui va arriver, c'est des mecs qui peuvent apporter sur un match qu'on n'avait pas l'année dernière. Maintenant à voir si on va pas perdre les autres joueurs qui sont importants comme Bourigeau, Sarr. Ça va être important de les garder.
Il faut encore recruter peut-être devant.
Oui, voilà, on va peut-être recruter encore devant. Je pense que ça va être des opportunités. On arrive sur un mercato d'opportunités. On a pu faire les bons coups avant. Et maintenant, on va attendre les bonnes opportunités.
Il y a un effectif cohérent quand même à Rennes.
Je pense que le
fait de vendre Lannion à ce prix-là, bon, c'est vrai que ça peut éventuellement paraître pas trop cher. Mais s'il y avait la volonté du joueur, là aussi, je pense qu'il... Je dis pas qu'il a toujours un coup d'avance, Rennes, mais il travaille différemment et je pense qu'il s'en va.
Surtout, je pense que l'arrivée d'Olivier Létang va vous faire énormément de bien.
Il en manque juste un neuf là pour l'instant.
Ouais, déjà depuis son arrivée, tout surfe bien pour l'instant.
Pour l'instant, ouais. Mais après, des fois, c'est à Rennes, tout marche bien 6 mois
J'ai l'impression que quand on est parisien ou ancien parisien, on a les faveurs de Sami Traoré quand même.
Non, je pense pas.
Armand, c'est
ça. Ça fait combien de temps que Rennes se plante? Ça fait 10 ans, minimum.
20 ans.
En 6 mois, ils ont réussi à stabiliser le minimum de club.
Notre auditeur a raison. Il y a eu des périodes où Rennes était quand même jouer le podium, hein. Même son Antonetti. À un moment, ils y étaient, quoi.
Vite fait.
Mais c'est vrai que c'est un club qui est habitué à un, il peut faire les montagnes russes.
Voilà.
Non. C'est même un grand club de ces championnats. Il faut arrêter de dénigrer aussi tout le temps.
Un grand? Pas quand même un grand. Pour être grand, faut quand même gagner des titres quand même.
C'est un des clubs qui a plus de longévité dans le championnat.
Ça, oui, un des plus vieux, ça on te l'accepte. Mais un des plus grands,
dans longévité en Ligue 1. Même en longévité en Ligue 1.
Bon, en tout cas, on va pas lancer ce débat tout de suite, mais on en reparlera, promis Pierre, et tu seras invité. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir contacté.
Bonne soirée à vous, les gars.
Le 32-16. Sachez que entre Higuain et l'AC Milan, c'est assez chaud. Et c'est la Gazzetta dello Sport qui en fait sa une aujourd'hui. Les positions entre les deux parties seraient en train de se rapprocher, même si Chelsea n'aurait pas abandonné le dossier de l'Argentin de 30 ans. On parlait tout à l'heure de Leonardo en tant que directeur sportif, et on sait que Bonucci pourrait faire lui le chemin inverse, retourner à la Juventus
Turin. T'as vu ça? Les conditions? Son retour?
Non.
Bah, il devra présenter ses excuses aux supporters. C'est ce que demande la direction de la Juve.
D'accord, pour Bonucci.
Oui. Je trouve que c'est très bien. C'est les grands clubs, c'est comme ça que ça marche.
Ok, non mais c'est vrai, cette information m'avait échappé. Et Higuain à l'AC Milan. Vous en pensez quoi?
Bah, tant mieux pour lui, je pense.
Écoute, il y a Ronaldo
plutôt
qui
vu
arrive.
À Chelsea, moi, mais
il y a Ronaldo qui va être compliqué. Il y a Ronaldo qui arrive, donc forcément, je pense que Ronaldo, il va sûrement jouer dans l'axe avec Dybala. Oui, c'est peut-être mieux pour lui qu'il aille voir ailleurs. Il est plus sur la fin que sur le début, Gonzalo. Je pense que le projet du Milan, qui est un club en reconstruction, ça peut lui aller comme un gant. C'est très bien. C'est très
puis
bien.
Pareil, il faut aussi qu'il vende, hein, qu'il laisse un peu de place. Ils ont fait Ronaldo.
C'est bien sûr.
Ok, donc voilà, vous êtes plutôt content pour ce transfert. En tout cas, je vous donnais cette rumeur de transfert, une officialisation. Maintenant, c'est André Ayew qui arrive au Fenerbahçe, le Ghanéen qui arrive en provenance de Swansea, relégué en Championship, et qui s'engage pour un an.
Quelle carrière! C'est incroyable en fait de voir comment quand t'es mal entouré, ta carrière peut prendre des tournures aussi. Enfin, ta carrière peut ne pas décoller au point où elle aurait dû l'être. Quand il part de Marseille, il a des gros clubs anglais qui sont sur lui. Il est libre, donc voilà déjà c'est un attrait supplémentaire. Et ce qui s'est passé, c'est que il voulait tellement aller en Angleterre, le petit, c'est qu'il a mandaté 5-6 agents différents et que tous les clubs qui étaient sur lui, Liverpool, il avait Manchester United, il savait pas à qui s'adresser, ça leur a fait peur. Au final, il a atterri à Swansea. Alors que quand André Ayew part de Ligue 1, on était tous d'accord pour penser qu'il irait dans un club qui jouerait au moins l'Europe. Quoi.
L'Europe,
ouais. Là, au final, tu te rends compte de sa carrière, qu'est-ce que c'est?
Ouais, il pensait peut-être que ça serait un tremplin aussi de mettre un pied.
Autant revenir à Marseille qu'à la Fenerbahçe.
Il a besoin, je pense, de se stabiliser, André.
En plus, il signe un an.
C'est curieux. Franchement, je comprends pas, parce que qu'on se rappelle, hein, là c'est vrai que depuis qu'il est parti de Marseille, c'est plus vraiment ça, mais qu'on se rappelle le joueur que c'était quand il était en Ligue 1. C'était un des meilleurs joueurs de Ligue 1.
Et pour continuer sur la Turquie et un ancien Marseillais, sachez que le meilleur buteur du dernier championnat de Turquie avec 29 réalisations, Bafétim Bigomis, pourrait quitter Galatasaray. Selon le journal turc Milliyet, l'avant-centre aurait demandé une revalorisation salariale à ses dirigeants qui lui aurait signifié en réponse qu'il ne le retiendrait pas en cas de bonne offre.
Marseille, qu'est-ce que vous attendez?
Bah, c'est déjà, c'est étrange de la...
Vendée, Mitroglou, Red Star?
C'est étrange de la part de Gattaza, il a fait une saison exceptionnelle.
Exactement.
Il les a portés.
C'est vrai, c'est bizarre.
Après, bon, est-ce que... On connaît pas les finances du club, est-ce qu'ils se sont mis dans le rouge, est-ce que je crois qu'il avait un salaire important,
très
important.
Et il est gourmand aussi. Ouais. Il est gourmand.
Mais il faut se réaliser,
il peut. Hein.
Voilà, après, voilà,
aussi,
il peut aussi,
quand même, monsieur. Ouais.
Tout à l'heure, on parlait de statistiques.
Lui, le mec, j'ai l'impression que tu le mets n'importe où. Bon, sauf en Angleterre, où c'est pas.
Vous faites pas la même chose à Marseille. Vous excusez de l'avoir transféré à Fenerbahçe et vous le récupérez.
Mais tu sais que rétrospectivement, t'as tout à fait raison. Hein, c'était une erreur. C'était une très grosse erreur.
Julien nous appelle au 32-16. Salut, Julien.
Salut à tous. Bonsoir.
Tu es supporter de l'AC Milan et tu voulais revenir sur cette information rumeur de la Gazzetta dello Sport. Et Higuain, ce serait une bonne idée selon toi?
Je pense qu'Higuain, c'est la garantie, allez, on va dire entre 23 et 30 buts, suivant la
France. Ouais, moi, j'allais dire une vingtaine de buts minimum, pareil, ouais.
Donc, s'il a pas pris 15 kilos pendant les vacances après la Coupe du Monde et qu'il arrive motivé et un peu revanchard, parce qu'a priori, ils ont pas l'air de le retenir énormément à la Juve, je trouve ça pas idiot. Pour une fois, je trouve qu'un échange, parce qu'il parle éventuellement d'un échange Bonucci contre Higuain et éventuellement un joueur qui, en plus.
Et Valcaldara.
Ouais, c'est ce qu'ils disent pour pouvoir remplacer.
Ça m'étonnerait qu'il lâche Caldara, parce que Caldara, c'est le futur capitaine de l'équipe d'Italie, quoi.
Ouais, mais ils veulent Bonucci. Donc, je pense que la Juve est dans une logique à court terme aussi. Ils veulent renforcer la défense. Il parlait aussi de laisser partir Rugani.
Ouais.
Donc, je suis pas sûr qu'en Italie, actuellement, il faille absolument une défense avec des grands noms. Et je trouve plutôt intelligent de la part du Milan d'essayer de repartir sur quelque chose d'un peu plus sain, de se dégager de pas mal de gros contrats qui sont arrivés notamment l'été dernier.
Rugani, c'est pas Sarri qui le veut à Chelsea?
Si.
Ouais.
Si, Rugani, bah, parce qu'il l'avait connu à Empoli. Ouais, je crois que c'est pas de bêtises, ils sont connus à Empoli. Et c'est un super joueur. Après,
il est en retard sur Caldara, Rugani.
Je pense, mais je pense que les deux, tu les retrouveras assez rapidement.
De toute manière, Julien, si Caldara va au Milan AC, t'as Caldara Romagnoli, c'est la charnière. T'es une charnière d'avenir qui est déjà bonne et sur laquelle tu peux compter sur des années, quoi.
Bah, tout en sachant que bon, même si je ne fais pas le Milan aussi bien qu'il y a une vingtaine d'années. L'an dernier, je vais pas dire que c'était défensivement qu'ils étaient très inquiétants.
Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bonucci a loupé son début de saison pour plein de raisons. Son fils était malade, c'était compliqué. Il a changé de club. Et après, une fois qu'il est installé avec Romagnoli, c'est une des meilleures charnières d'Italie.
Oui, ils ont tenu la baraque. Même Rodriguez à gauche a fait une fin de saison bien meilleure que le début. Le milieu de terrain, un caissier, par exemple, on en parlait déjà avant. Je trouve que c'est un joueur dont personne ne parle. Qui a fait une super saison, qui a un joueur qui a un abattage physique et au milieu qui est quand même super costaud. Donc
il est loin de son niveau de la Lazio.
Moi, je pense franchement que s'il choque là-dessus, on parlait de Falcao au début, entre Higuain et Falcao, moi je préfère Higuain, en tout cas sur le championnat italien.
Ok.
Actuellement.
C'est compréhensible, oui.
Je pense qu'il n'y a pas d'adaptation, ils sont tranquilles. Au pire, ils laissent partir l'attaquant portugais André Silva, celui qui n'a pas été champion du monde, vice-champion du monde alors qu'il aurait dû l'être et qui n'a pas voulu rentrer sur le terrain, Kalidic. Si je dis pas de bêtises, il est toujours au Milan aussi et il a dû jouer 5 matchs. Enfin, il y a le
mais
moyen.
Mais ces mecs-là, ils ont
des
super contrats aussi, donc.
Mais il y a le moyen. Il y a des équipes qui les veulent. Enfin, quand on voit que Monaco était prêt à faire signer, parce que je pense que c'est des bons. Enfin, en tout cas pour le Portugais, c'est un bon avant-centre. Après, être bon avant-centre et s'imposer à Milan, c'est pas tout à fait pareil.
Ouais, exactement.
Après, faut que la mayonnaise prenne aussi avec le groupe aussi, surtout.
Mais on parlait tout à l'heure des réseaux de Leonardo. La légitimité aussi du projet de Leonardo, je pensais surtout ça, parce qu'il y a peut-être qu'il aura pas de gros moyens, mais le fait que lui soit dans le projet déjà, je pense que ça peut inciter des joueurs à venir.
Higuain, ce qui est bien, c'est le meilleur moyen de faire progresser Coutronnet, je pense, tu vois, de le faire côtoyer à l'entraînement et tout, je pense que ça serait du pain béni pour lui.
Bon, merci. Oui, vas-y Julien, rapidement.
Non, pour finir, je pense qu'il y a quand même des valeurs marchandes à Milan qui sont pas dégueulasses quand on voit Souso, quand on voit même les attaquants, il y a quand même quelques joueurs dont on peut se libérer éventuellement. De toute façon, Milan sera pas champion l'an prochain. Milan l'an prochain, s'il vise trois, quatrième place, ce sera déjà une excellente saison. Quand on voit que Leonardo aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Ça montre à quel niveau était arrivé le Milan AC. Il y a deux mois, on ne savait pas si le Milan allait continuer et en Coupe d'Europe. Et on pouvait même se demander s'ils allaient continuer en Serie A. Donc, pour l'instant, je trouve que le On va voir, faut voir.
Et on espère en tout cas que l'AC Milan reviendra très vite en Ligue des Champions. Merci beaucoup Julien pour ton avis d'avoir composé le 32-16. D'autres petites informations à vous donner. L'une venant d'Italie, selon Sky Italia, Maxime Lopez aurait fait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros de la part de Crystal Palace. L'ancien Lyonnais était arrivé, vous le savez, en Serie A et à l'AS Roma l'été dernier contre 5 millions d'euros.
T'as dit Maxime Lopez.
Maxime Lopez.
Maxime Gonalon.
J'ai dit Maxime Lopez. Qui a fait l'objet de 10 millions d'euros de la part de Crystal Palace, l'ancien Lyonnais qui était arrivé à l'AS Roma l'été dernier contre 5 millions d'euros. Il n'a été titularisé que 12 fois en Serie A. Maxime Lopez, il faut qu'il parte.
Maxime Lopez, bon, Maxime Gonalon.
Maxime Gonalon,
il reste à Marseille, sous le verrou.
Dis donc, Maxime Gonalon, qui m'a dit Maxime Lopez depuis tout à l'heure? Je parle de Maxime Gonalon.
C'est quoi le club là qui sera
Crystal Palace.
Crystal Palace.
Je vois bien moi en première ligue.
Bah déjà, il faut qu'il parte dans un club où il va jouer.
Déjà, premièrement, là.
Ouais, mais déjà. Là, il y a de la place qui se libère à la Roma avec le départ de Nainggolan aussi au milieu. Il y a une place à prendre au milieu de terrain. Sur les rentrées qu'il fait avec la Roma, il n'est pas catastrophique. Ouais. Franchement, il est même
plutôt correct. Moi, j'aimerais bien qu'il reste encore une saison à la Roma. Qu'il grappille un peu plus de temps de jeu.
Et moi, j'aimerais bien en première ligue.
En tout cas, il est convoité surtout en première ligue.
Je pense qu'en première ligue, il a le style pour aller en première ligue.
Il a l'impact. Ça dépend où en première ligue. Attention, messieurs.
Bah, Crystal Palace, c'est pas un mauvais club.
Ça va, s'ils vont perdre, ils vont certainement perdre un ou deux joueurs importants quand même.
Oui.
Mais après, ça nous permettra de le suivre aussi sur nos antennes.
Exactement, sur les antennes d'RMC Sport.
Elle est bien placée, celle-là.
Oui, mais vous savez que la AS Roma va aussi jouer les compétitions européennes. Et vous le savez qu'RMC Sport, eh bien, en exclusivité, vous allez suivre la Ligue Europa la Ligue des Champions.
C'est un talent.
J'ai essayé de rebondir comme j'ai pu. Je me suis rapproché aux branches.
Et puis,
sachez qu'on parlait bien, évidemment, de Maxime Gonalon. Arrêtez vos bêtises, messieurs. On parlait de Maxime Gonalon. Une dernière information à vous donner. Sachez que...
Samy, il a dit Maxime Lopez, faut l'amener, 10 millions. Mais il était malade.
Sachez que le sélectionneur brésilien Tite a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Et c'était plutôt attendu jusqu'à la Coupe du Monde. Donc,
mais c'est une première, non? J'ai lu ça. C'est pas une première,
qu'un entraîneur qui soit,
un sélectionneur brésilien qui...
Mais c'est normal parce que quand il les prend, ils étaient tellement au fond du gouffre. On pensait qu'ils allaient pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Il les a redressés de manière spectaculaire.
Bah, c'était une petite anecdote.
De manière spectaculaire. Et
voilà, c'était comme ça. C'était un bonbon lancé de la part de Sébastien Piocelle. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la dernière ligne droite de l'After. Nous allons jouer quiz. Pas facile. On mettra les deux anciens footeurs ensemble, Samy Traoré et Sébastien Piocelle, pour affronter le grand Jonathan McCarthy.
C'est du 2 contre 1, ouais.
Attends, il a fait des quiz depuis 5 ans.
Ça va vraiment pas être évident. Et sachez que vous pouvez nous appeler au 32-16 pour participer à ce quiz. Deux places à gagner pour le match amical samedi à Nice entre l'Inter et Chelsea. A tout de suite sur AMC.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
22h50, c'est quasiment la fin de l'after, mais ça va être encore très bon. Un quiz à venir dans quelques instants avec notre ami Jonathan McCarthy qui sera tout seul pour affronter les deux anciens.
Il fait des sports de combat,
Sébastien Piocelle et Samy Traoré. Vous êtes prêts, messieurs?
Ouais.
C'est dans quelques minutes parce que j'ai encore quelques informations à vous donner. Vous le savez, on en a parlé dans l'after, Kylian Mbappé, d'ailleurs appelez le 32-16 pour participer au quiz. Kylian Mbappé qui a décidé de changer son numéro de maillot. Il ne portera plus le 29, mais le numéro 7, et il a justifié son choix aujourd'hui sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Je cite, je me suis longtemps dit que le numéro n'était pas important, que c'était seulement sur le terrain que cela se passait, mais c'est une indication sur tes ambitions, le joueur que tu veux être. Je suis venu au Paris Saint-Germain pour laisser mon empreinte, il y a une belle histoire à écrire, et ce n'est que le début. On est encore là pour de belles années, et j'espère que l'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble, et j'essaie de poursuivre ma progression sur le terrain, et je pense que pour moi c'était le bon moment pour changer de numéro. Je pense que c'est une sorte d'affirmation. Le numéro 7 est un numéro de légende, beaucoup de grands joueurs l'ont porté, on pense notamment à son idole Cristiano Ronaldo. Une réaction dessus?
Il est serein, hein, le gamin.
C'est vrai qu'il est serein, il est facile, hein. Il déroule.
C'est bien parce que moi je trouve qu'on c'est, j'aime bien l'importance que peut avoir les numéros. 1, 2, 3, avant, quand on jouait juste de 1 à 11, je trouvais ça un peu assez romantique, hein, assez joli à voir.
Donc c'est vrai.
C'est bien d'avoir la symbolique, tu vois, du numéro.
T'es assez conservateur finalement, Jonathan.
Mais totalement.
Ouais.
Mais totalement.
Non mais je suis d'accord, moi j'aimais bien de 1 à 11.
Ouais voilà, donc je trouve ça bien qu'il ait qu'un jeune comme ça ait place cette importance là dans des choses
et revendique, qui parle de numéro de légende en disant que pour lui c'est le numéro d'affirmation. C'était important pour vous les numéros ou pas?
Moi j'ai changé régulièrement mais c'est vrai
pourquoi
qu'après
quand...
Selon les clubs,
j'ai commencé
selon...
avec le 12 ouais, à Nantes, moi j'avais plutôt bien démarré. Quand je suis arrivé à Bastia, il était pas dispo. Dès que j'ai pu le récupérer, en fait, je l'ai récupéré. Enfin, après, on est assez superstitieux, je pense.
Enfin, en moi, général, en les cas, footballeurs.
Quand tu fais une bonne saison avec un numéro, ou alors après, ça peut être sur une.
Tu veux savoir mon numéro?
Naissance de tes,
le
de tes
13.
Enfants.
Les Bouches-du-Rhône. Eh ben, tiens, dis donc.
Non, mais c'est vrai ou pas?
Ouais, au Paris Saint-Germain,
et
j'avais.
Pourquoi? Pour les Bouches-du-Rhône?
Non.
C'est un amoureux pas. Secret de l'OM, mais tu vois pas.
Non, pas spécialement. Après,
il me l'a dit, il aurait rêvé de jouer à l'OM.
Bah, une fois que j'ai joué dans le plus grand club de France, je vais pas me retrouver à l'OM.
C'est pas ce que tu me faisais pendant la pub.
Arrêtez avec
ce numéro, là.
Non, après, tu parlais de Nice, là.
Non. Après, c'est, si t'as des enfants, tu peux prendre leur date de naissance. Après, c'est les footballeurs, comme disait Pio, sont vachement superstitieux. Après, moi, j'avais le 13, comme ça, pour penser à Pancho de temps en temps.
Ouais.
Mais sinon, non, après, ouais, moi, j'ai pas attaché de grande importance au numéro.
En tout cas, voilà, pour lui, c'est le numéro, et l'année de l'affirmation pour Kylian Mbappé avec donc ce numéro 7. Une autre information à vous donner, parce que on a parlé tout à l'heure du transfert de Malcolm. Eh bien, sachez que le président de l'AS Roma, James Palota, qui est en colère, après le FC Barcelone. Évidemment, il s'est fait shipper à la dernière seconde, son joueur, le joueur de Bordeaux. Hier, Barcelone a présenté ses excuses pour Malcolm, mais je ne les accepte pas, à moins qu'ils nous vendent Lionel Messi. Le joueur voulait venir chez nous, il parle de Malcolm évidemment, il y avait des discussions seulement avec Everton et Leicester, nous avions déjà convenu d'une clause de 120 millions d'euros, les contrats n'étaient pas signés, pour l'interrogation, oui, ok, mais c'est stupide, tout le monde sait comment ça marche, à moins que son agent soit seulement un idiot.
Eh ben ouais, tout le monde sait comment ça marche, tant que c'est pas
ils
si
ont jamais
rien
dû le faire,
fait,
en
hein.
Plus, à la Roma, ils ont jamais dû le faire.
Ouais, c'est ça qui est incroyable.
Mais on en revient une nouvelle fois, c'est Barcelone qui vient, qui fout la merde. Tout à l'heure, on parlait de Marco Verratti. Son début de saison qui est tronqué il y a deux ans ou l'année dernière. C'est qui vient le chercher? Barcelone.
Oui, mais en même temps, on peut pas recruter, on peut pas reprocher à un joueur de vouloir un club de vouloir un joueur.
Au Barça, non, mais au Barça d'essayer de draguer les joueurs. Tant que c'est pas signé, c'est
mais
pas signé. Voilà.
Pourquoi Barcelone ne va pas chercher Malcolm avant la Roma?
Là,
on te dit pas que c'est bien moralement,
il est parti,
on te dit juste que malheureusement c'est comme ça.
Bah ouais, comme il a dit, tant que c'est pas signé, c'est pas signé.
Ok, très bien. On va passer au quiz maintenant avec Pierre et Mathieu. Salut les mecs.
Je suis dans un nouveau métier.
Pierre, un petit peu de sérieux parce qu'il y a un quiz très important. Il y a deux places à gagner pour le match samedi soir, match amical entre l'Inter et Chelsea. Pierre, est-ce que tu regardes ou est-ce que tu nous écoutes?
Je t'écoute.
Tu m'écoutes. J'ai combien de doigts?
3.
J'en ai 5. C'est perdu. Donc c'est Mathieu qui va décider. Est-ce que tu veux être avec Jonathan, Mathieu, ou est-ce que tu veux être avec les anciens footballeurs Sébastien Piocel et Samy Traoré?
Yes. Alors, petit bonjour à ma team déconneurs, au passage. Et je vais être avec Jonathan McCarthy, bien sûr.
Ah, tu veux gagner, toi, c'est ça?
Ouais, ça va. Salut, Mathieu.
Bonjour. Je veux gagner, donc...
Pierre, est-ce que ça te va, les anciens footballeurs?
Parfait, moi aussi je suis un footballeur.
On va tout faire, Pierre, pour toi, on va tout donner aujourd'hui.
Bon, c'est gentil, parfait. C'est gentil les gars.
Alors, vous le savez, la Ligue 2 reprend demain. Et ce sera à suivre avec Benoît Boutron, que l'on adore, on l'embrasse d'ailleurs. Nous allons faire un quiz spécial Ligue 2.
Oh là là.
Aïe, aïe, aïe.
Est-ce que vous pouvez me citer les 3 promus cette saison?
Grenoble,
Nîmes.
Non, en Ligue 2. Grenoble, qui monte de National à Ligue 2.
De National à Ligue 2.
Grenoble,
Nîmes.
Non.
Non, Nîmes c'est en Ligue
1. Béziers.
Ouais.
Qui c'est qui joue? Grenoble, Béziers.
Grenoble, Béziers. Red Star.
Et le Red Star, ça fait un point pour Pierre, Sébastien et Samy.
Ah, c'est pas fini. Super.
Le Red Star, non, mais c'est pas fini. Vous n'avez pas encore gagné, ça fait un point. Qui m'a dit super? C'est Pierre?
Non.
Super.
Quels sont les deux clubs qui sont descendus en national?
Bourg?
Non. Bourg-en-Brest, non, on était sur la limite.
Laval?
Directement.
Niort.
Non.
Niort.
C'est pas Niort.
Tours.
Il y a Tours.
Tours.
Orléans.
Il n'y a pas Orléans, non, qui reste toujours en Ligue 2. Quels sont les deux clubs qui sont directement descendus en national? Tours et... Ça commence par un Q. Quevilly, qui m'a dit Quevilly?
C'est moi, c'est
Mathieu.
Moi. Mathieu, ouais, c'est pareil.
C'est Mathieu, ça fait un point.
Il a donné une réponse, j'ai donné une réponse. Ça fait pas un point,
ça
monsieur.
Ça fait un point pour Mathieu, et ça fait un point pour votre équipe.
Il a jamais gagné de quiz.
On va jouer aux enchères maintenant, ok? Donc vous devez décider, vous n'allez pas décider, ami auditeur, mais vous allez pouvoir venir au secours de votre équipe en donnant un nom. On va jouer aux enchères. Sur les 10 dernières saisons, combien de champions de Ligue 2 pouvez-vous me citer? Sur les 10 dernières saisons, les enchères commencent avec toi, Jonathan. Combien tu peux m'en citer?
3.
Tu peux m'en citer 3. Oui, je sais, Samy, tu n'as pas de stylo, 4. Mais tu n'en auras pas. 4. Jonathan, sachant que tu vas pouvoir être aidé par Mathieu, mais seulement sur l'identité d'un club. Est-ce que tu peux m'en donner 5 ou plus, peut-être?
5.
Tu peux m'en donner 5?
Donnez.
La team Sébastien. Bah, est-ce que vous pouvez, Samy?
5,
Sébastien.
Oui, on peut
5. Mais c'est des enchères, donc il va falloir monter. Est-ce que vous pouvez en donner 6? Sur les 10 dernières années.
On est en quelle année, là?
2018. Ça va être compliqué, Pio. Et 6 sur les 10 dernières années?
Vous laissez la main?
Ouais.
Vas-y.
Vous laissez la main, sache, Mathieu, que tu pourras donner un club. C'est à toi.
Donne-moi ton club, Mathieu.
Monaco, mon club de cœur.
Ouais.
Et Monaco en 2013, c'est une bonne réponse.
Bastia
en 2012, c'est une bonne réponse.
3.
3 en 2015, c'est bon. T'en manques 2. Il y a eu plus évident. Reims, bah oui, en 2018,
ouais.
C'est évidemment.
Ouais, Reims, c'est bon, ça.
Et ah putain, je suis pas sûr, merde. Brest.
C'est bon.
Et non, c'est pas bon, tu chutes maintenant bon là-dessus. Merde. T'avais Lens, t'avais Caen, Strasbourg, Nancy, Metz, Evian-Thonon. Tu chutes sur Brest. C'est une mauvaise réponse.
Le point. Deuxième. Le ou troisième avec Avignon.
À Samy. Premier et camp. À Sébastien. Ainsi qu'à Pierre. Ça fait 3.
Désolé, Mathieu.
Ok.
Ah non, t'inquiète, Jonathan.
La saison dernière, Umut Bozok de Nîmes fut le meilleur buteur de la Ligue 2. Mais avec 24. Combien 25, de buts? Qui m'a dit 24?
Pierre, mais au hasard.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. C'est une victoire de Pierre, de Sébastien et de Samy.
Samy, ça fait du bien.
On reviendra plus tard.
Tu vois,
Pierre, tu gagnes merci deux places pour la rencontre amicale entre l'Inter et Chelsea.
Bien joué,
on reconnaît les gens de Nîmes.
Exactement. Eh bien, passe un bon samedi à Nice pour cette rencontre. Nous, on se retrouve demain à partir de 21h pour l'after. Enfin, plus précisément, vous allez retrouver Christophe Plenet pour l'after de 21h à 23h. Nous, on se retrouvera samedi. Merci beaucoup, les mecs.
Salut.
Passez une très belle soirée.
Tous.
On vous embrasse. Salut.
Ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.